Je te rends grâce, ô mon Père céleste, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, de ce que tu m'as gardé de tout mal pendant la nuit qui vient de finir. Je te prie de me préserver encore pendant cette journée de tout mal et de tout péché, afin que ma conduite et toute ma vie te soient agréables. Je remets entre tes mains mon corps, mon âme, et tout ce que je possède. Amen. Cette invocation, avec les mots de Martin Luther, prolongeons-la en chantant le psaume 100 que vous trouvez au numéro 51 du psautier. Nous nous levons. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir auprès de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce temps de louange et de célébration. Bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens, et bienvenue à vous si vous êtes ici de passage ou en visite. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière qui est la vôtre. Nous commençons ce matin une série de 7 cultes sur Luther, ou plus précisément sur Luther, lecteur du Notre Père. Et aujourd'hui, nous commençons par le commencement. Et nous nous arrêterons donc à la première phrase, « Notre Père qui es aux cieux », mais aussi au contexte de ce commentaire de Luther. Luther nous a aussi laissé de belles prières et de beaux cantiques, de belles musiques, alors nous leur ferons honneur dans la liturgie ce matin. Mais aujourd'hui, nous commençons aussi une nouvelle étape dans la vie de notre communauté, car nous accueillons Sandrine Landau, qui a été nommée pasteur stagiaire dans notre communauté sous la houlette d'Emmanuel Roland, qui sera son maître de stage. Mais en son absence, c'est à moi qu'incombe le plaisir d'accueillir Sandrine, qui sera donc un peu sa stagiaire à nous. Mais avant de donner la parole à Sandrine pour qu'elle se présente en quelques mots, permettez-moi de dire aussi comme... change un tout petit peu de casquette, vous me permettrez cette incursion dans mon autre responsabilité, mais permettant de dire comme président de notre église de Genève, la fierté et le plaisir qui sont les nôtres d'accueillir au sein de notre église pas moins de 4 stagiaires cette année. Notre église, comme vous le voyez, ne manque pas de vocation. Et notre Église, malgré sa fragilité financière, fait le maximum pour permettre aux plus jeunes d'entrer dans le ministère, et cela nous réjouit infiniment de voir aujourd'hui commencer dans 4 lieux différents de notre Église, 4 stagiaires. Mais je donne maintenant la parole à Sandrine pour qu'elle puisse se présenter.
Merci Emmanuel pour tes mots d'accueil chaleureux. Merci à toi et à Emmanuel Roland pour l'accueil chaleureux déjà dans la paroisse. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de commencer aujourd'hui cette nouvelle étape pour moi et pour vous. Emmanuel parlait de permettre aux plus jeunes, bon, je ne sais pas si je suis dans les plus jeunes, mais je suis en tout cas incontestablement jeune dans le ministère pastoral, puisqu'il y a quelques jours encore, j'étais assistante en histoire du christianisme à la faculté de théologie en bas de la colline, et que me voilà aujourd'hui parmi vous. C'est dans cette même faculté de théologie que j'ai obtenu mon bachelor et mon master en théologie. Tout cela mis bout à bout, ça fait bientôt 11 ans qu'avec mon mari, nous sommes installés dans le bassin Genevois qui a vu naître nos deux enfants. Avant cela, nous étions en Lorraine, à Nancy, où j'étais, à cette époque de ma vie, ingénieure forestière, et où j'ai rencontré une communauté de l'Église réformée de France dans laquelle j'ai pu faire tout un magnifique chemin et dans laquelle j'ai entendu pour la première fois un appel au ministère pastoral. Voilà, je ne fais pas plus long pour ce matin, nous aurons d'autres occasions puisque le stage pastoral dure 18 mois, je suis en tout cas 18 mois avec vous. Merci à vous pour votre accueil, merci d'avance pour votre patience et votre indulgence pour mes inévitables erreurs de débutante. Et puis je me réjouis vraiment de ce parcours à la lumière du Christ qui nous accompagne.
C'est effectivement une grande joie pour nous et chacune et chacun d'entre nous et ensemble puissions-nous te porter dans notre prière pour que ce stage vraiment porte tout son fruit pour toi et pour notre communauté. Nous allons poursuivre notre louange avec le cantique 276 qui n'est pas le plus connu mais qui est de Martin Luther. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même faire honneur à Martin Luther ce matin. Alors Vincent va nous le jouer une première fois puis nous l'entonnerons tous ensemble. Nous pouvons nous lever. Prolongeons ce cantique avec toujours les mots de Martin Luther pour implorer le pardon de Dieu. Mon Dieu, je suis sûr que tu es vrai et que tu ne mens jamais. Permets que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas au doute, non parce que ma prière est bonne, mais parce que toi, tu es la vérité. Mon Père, encourage et fortifie par ta sainte parole l'homme faible que je suis. J'ai souvent de la peine à accepter ta volonté pour moi. Donne-moi la force d'être obéissant pour ne pas succomber à la tristesse. Enseigne-moi, ô Père, à ne pas me confiner en moi-même ou en mes belles entreprises, mais à tout attendre de ton infatigable bonté. Que la tristesse de vivre souvent en désaccord avec ta volonté ne me submerge pas, mais plutôt que ta miséricorde s'étende à toute ma vie et la fertilise. Amen. En restant assis, je vous invite à entonner le répond 96. Faisons un instant silence devant Dieu.
Nous sachant pardonner par la grâce seule et aimer d'un amour inconditionnel par Dieu, nous pouvons avec confiance nous placer sous la miséricorde de Dieu et implorer que son Esprit nous accompagne pour nous donner la paix du cœur et l'intelligence pour entendre sa parole. Nous prions encore une fois avec les mots de Martin Luther. Je ne veux, Seigneur, ni argent, ni or. Donne-moi une foi ferme et inébranlable. Je ne cherche, Seigneur, ni plaisir, ni joie de ce monde. Console-moi et affermis-moi par ta sainte parole. Je ne te demande pas honneur et considération d'ici-bas. Ils ne peuvent en rien me rapprocher de toi. Donne-moi ton Saint-Esprit, qu'il éclaire mon cœur et me fortifie, qu'il me console dans mon angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu'à la mort dans la vraie foi, dans la ferme confiance en ta grâce. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6. Et vous, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Nous lisons encore dans l'évangile de Jean au chapitre 4 ce verset. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Et pour commencer à entrer dans ces textes, nous nous levons pour chanter le cantique 212.
N'y a-t-il rien de plus beau que la prière du Notre Père? Elle nous unit à tous les chrétiens de tous les temps, de toutes les confessions, de toutes les cultures, de toutes les langues. Moi, ce qui me fascine toujours, et c'est toujours ce que je dis souvent aux enfants, hein, quand on parle du Notre Père, je dis, mais vous connaissez vos parents, vos grands-parents, peut-être vos arrière-grands-parents, vos arrière-arrière-arrière-grands-parents, vous ne les connaissez pas, et pourtant vos arrière-arrière-arrière-grands-parents disaient la même prière. Ce Notre Père, déjà. Ce Notre Père qui nous permet même de remonter jusqu'aux paroles mêmes du Seigneur, puisque cette prière, c'est le Seigneur lui-même qui nous l'a enseignée. Et il y a quelque temps, nous l'avons entendu chanter en araméen, dans la langue même, ici, du Seigneur. Mais en même temps, on peut questionner l'usage de cette prière, mille fois ressassée et souvent prononcée, par nous-mêmes aussi, par moi, par chacun de nous, parfois un peu par automatisme, parce qu'elle fait partie du culte, et qu'à un moment donné, la prière du Notre Père arrive, et on peut la dire en pensant à sa liste de commissions ou ce qui nous attend à la sortie du culte. Alors sommes-nous toujours présents, conscients des intentions que nous formulons lorsque nous nous associons au Notre Père? Il y a un très beau petite scénette de théâtre faite par une troupe qui s'appelle SketchUp, en l'occurrence, ça date déjà de quelques années, mais que je remontre souvent quand je travaille avec des jeunes sur cette prière du Notre Père, parce que c'est dans le fond une jeune femme qui, à la fin de la journée, a fini ce qu'elle fait, et puis elle est en pyjama, puis avant d'aller au lit, elle dit rapidement la prière du Notre Père. Et tout d'un coup, le Seigneur l'interpelle. Et alors, ça commence à l'embarrasser, parce qu'elle finit par dire, non mais là, ce soir, ça va beaucoup trop loin, parce que le Seigneur lui pose des questions sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle entend vraiment, quand elle dit, pardonne-nous nos offenses, par exemple. Alors cette dialectique, cette problématique entre la beauté d'une prière qui nous associe au peuple des croyants et le risque de lui faire perdre toute saveur en l'annonçant mécaniquement, travaille déjà Luther de manière extraordinaire. Luther, on le sent tiraillé avec cette prière, car Luther a été moine et il aime cette piété intérieure qui repose sur la prière. Il veut continuer de donner de l'importance primordiale à la prière. Il sait bien que la répétition de la prière permet aussi une forme d'intériorisation, de mise en disponibilité de notre esprit. Mais en même temps, Luther, en réformateur qu'il est, voit bien les dérives que peut prendre la pratique religieuse lorsqu'elle est comme contrainte et machinale. Alors Luther va devoir trouver un chemin entre un encouragement à beaucoup prier et une critique virulente d'une piété quasi superstitieuse qui, dans le fond, mise sur l'automaticité de la prière et ne repose pas sur une démarche de foi intérieure. Et c'est pourquoi Luther, avant même de commencer à commenter le Notre Père, phrase par phrase, mot par mot, va préciser dans son introduction comment nous devons prier et quels mots nous devons employer. Alors, frères et sœurs, travailler sur le commentaire de Luther, sur le Notre Père, c'est s'attaquer à un chef-d'œuvre de la théologie protestante, qui n'a pas pris une ride, qui n'a perdu ni force ni pertinence. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Luther, en 1517, prêche sur le Notre Père. Et son disciple, qui se fait appeler Agricola, va un peu subrepticement publier ses textes sans l'autorisation de Luther, ce qui aura le goût de contrarier, on va dire, Luther, le mot est faible. Il écrit « Il ne faudrait pas qu'on laisse errer à la campagne ma prédication. » Donc, il remonte les bretelles du pauvre Agricola qui croyait avoir bien fait son travail, et Luther va donc s'atteler à un commentaire beaucoup plus, j'allais dire, précis et rigoureux, qui sera finalement publié en 1519 sous le titre, quand même très intéressant, « Explication du Notre Père en langue allemande à l'usage des simples laïcs ». Tout un programme. On voit déjà bien, évidemment, non seulement la polémique, mais toutes les attentions qu'il y a en soulignant la langue allemande et en soulignant l'usage des simples laïcs. Ce commentaire va connaître un succès immédiat. Immédiat. Un grand succès, non seulement, dans le fond, dans le domaine théologique, dans le domaine des clercs, de ceux qui s'intéressent à ces questions, mais va chambouler, finalement, la vie quotidienne des gens. À tel point que le duc Georges de Saxe écrira, contrarié, quand il voit le succès de ce commentaire, il dira « On n'ose plus égrener son rosaire machinalement ». On est évidemment au cœur des débats de la Réforme, qui changent non seulement les paradigmes théologiques, mais la vie quotidienne de tout un chacun. Et d'entrée, Luther, donc, replace la prière du Notre Père dans son contexte, qui est celui de la controverse entre Jésus et les pharisiens sur la manière de prier. Et Luther va très vite, on imagine bien, associer la prière des pharisiens, la religion des pharisiens, la religiosité des pharisiens à la prière des prélats catholiques qui semble insister davantage sur la quantité que sur la qualité de la prière. Et Luther écrit « Moins il y a de paroles, meilleure est la prière. Plus il y a de paroles, pire est la prière. » Martèle-t-il d'entrée en écho à la parole de Jésus. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. On voit bien le contexte, évidemment la polémique qu'il y a derrière cette introduction. On l'a compris, pour Luther, la quantité ne compte pas, mais en même temps, placer la prière au cœur de son existence est fondamental pour Luther. Il distingue alors ce qu'il va appeler la prière du radotage, la prière sincère, celle qui est dite en esprit et en vérité, selon le verset de l'Évangile selon Jean, que nous avons réentendu tout à l'heure en esprit et en vérité. Je cite encore Luther. La prière feinte et corporelle s'est marmottée et babillée extérieurement de la bouche sans aucune attention. La prière sincère et spirituelle s'est désirée, soupirée et demandée intérieurement du fond du cœur. La première fait des hypocrites et les esprits pleins d'une fausse sécurité, la seconde fait les saints et les enfants de Dieu remplis de crainte. Mais Luther ne veut pas pour autant balayer la prière répétitive, la prière du dévot comme il l'appelle, car elle peut stimuler, dit-il, l'âme à méditer. Et donc, pour Luther, il faut encourager en même temps une forme de répétition de la prière, d'une prière qui nous permet d'aller au fond de nous-mêmes. Mais il dit la prière extérieure doit devenir intime, elle doit devenir intérieure. Ceci posé, Luther revient alors sur la particularité du Notre Père par rapport à toutes les autres prières que l'on peut ressasser. Il écrit puisque cette prière tient son origine de notre Seigneur, elle sera sans aucun doute la prière la plus haute, la plus noble et la meilleure. Et il insiste, c'est pourquoi c'est une erreur de vouloir assimiler d'autres prières à celle-ci, dans la seule intention que Dieu nous accorde santé et longue vie, bien et honneur, ou encore pour obtenir indulgence. Et mieux vaudrait que tu dises un seul Notre Père en y mettant le désir de ton cœur plutôt que d'acquérir l'indulgence attachée à toutes les prières. On voit bien évidemment aussi tout le contexte et le front auquel s'attaque Luther, celle d'une piété, d'une religiosité sans la foi, d'une pratique éloignée des Écritures. Il y a comme tout son combat et toute la réforme dans ces quelques lignes de l'introduction de son commentaire. Et son introduction ainsi posée, Luther peut commencer son commentaire phrase par phrase, mot par mot. « Notre Père qui es aux cieux », six mots donc. Sur ces six, laissons de côté « qui » et « au », il en reste donc quatre. Et sur ces quatre, il y en a un qui est toujours écrit faux, ça n'a pas manqué même sur certains de nos papillons, « Notre Père qui est aux cieux », ES et non pas EST, car on s'adresse directement à Dieu. C'est une prière et non une pensée. Et l'on s'adresse directement à Dieu en le tutoyant. Luther va s'intéresser alors aux trois mots restants. Notre, Père et cieux. Important pour Luther que nous nous adressions à Dieu comme à un Père et non pas comme à un juge ou un Seigneur. Il écrit, parmi tous les noms, il n'en est pas un qui nous habilite plus envers Dieu que celui de Père. C'est une parole très amicale, très douce, très profonde, qui vient du cœur. Et cela l'incite alors, dit-il, à nous écouter et à nous reconnaître comme ses enfants. Et Luther souligne aussi l'importance du « nous ». Il veut qu'entre nous, nous soyons des frères, écrit-il. Et Luther insiste sur cette double dimension de la prière à la fois personnelle et communautaire. Ce Père nous connaît, il nous comprend, il se veut proche de nous comme un père pour ses enfants. Il voit la réalité de notre vie et ce qui se traduit dans les termes de Luther par la compréhension de Dieu, que la compréhension de Dieu qui a de notre misère. La mention de Dieu qui est aux cieux est là précisément pour souligner en quelque sorte la différence ontologique qu'il y a entre Dieu et nous, entre Dieu et les humains. Les cieux, cela ne veut pas dire pour Luther que Dieu est lointain, distrait, distant. Au contraire, mais cette saine distance, c'est ce qui lui permet d'exercer sa miséricorde à notre égard. Il écrit « Quiconque prie de cette manière est devant Dieu le cœur droit et élevé et est habile à implorer et à émouvoir la miséricorde divine. » Dieu qui est aux cieux est un Dieu, dans le fond, qui prend de la hauteur pour mieux nous aimer, comme disait une fois un enfant avec qui on discutait de ce Notre Père. Ça m'a toujours frappé, cette belle réponse d'un Dieu qui est aux cieux, qui prend un peu de hauteur pour mieux pouvoir tous nous aimer. C'est exactement, finalement, ce que dit Luther d'un Dieu qui, connaissant notre misère, peut exercer ainsi sa divine miséricorde. Prier le Notre Père devient alors un acte de confiance. Nous pouvons, en toute confiance, nous remettre à la miséricorde divine, à sa seule grâce, qui peut ainsi nous élever à lui. À travers son commentaire du Notre Père, Luther développe ainsi ou sous-tend toute la théologie de la réforme de la grâce sol, la fameuse sola gratia, et donc de sa critique virulente de tout ce qui se peut s'assimiler à une forme d'œuvre ou de recherche de salut par notre contribution. Lorsque nous croyons devoir faire un certain nombre de choses pour être en règle avec Dieu, nous ne pourrons l'être que par la seule miséricorde de Dieu, dit Luther. Dire le Notre Père, c'est avouer notre impuissance à nous rendre dignes de Dieu et s'en remettre à son seul amour. Pour Luther, plus que la bouche, c'est donc le cœur qui doit parler. Écoutons encore Luther critiquer ainsi la religiosité de son temps. C'est ainsi qu'on trouve également un certain nombre de prêtres et d'ecclésiastiques qui débitent superficiellement leurs heures, sans aucun désir intérieur. Ils osent déclarer ensuite sans vergogne « Allons, je suis bien content à présent, j'ai payé mon écho à notre Seigneur. » Et s'imaginent qu'ainsi, ils ont donné satisfaction à Dieu. Mais quant à moi, je dis et je concède que, sans doute, tu satisfais au commandement de l'Église. Cependant, Dieu te dira « Ce peuple m'honore de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. » Et ainsi, ce sont ceux qui paraissent prier le plus qui prient le moins, et inversement, ceux qui paraissent prier le moins qui prient le plus. Nul ne sera exaucé en parlant beaucoup. Luther n'y va pas par quatre chemins dans sa manière de dire les choses. Mais il y a ceux qui lui rétorquent. À l'écoute de Luc 18:1 et de l'incitation que Jésus nous fait de prier beaucoup, de prier constamment, qui justifie ainsi devant Luther cette prière répétitive. Luther leur rétorque qu'il ne faut pas confondre le fait de prier beaucoup, de donner de l'importance à la prière dans sa vie pour s'élever vers Dieu, et le fait, comme il l'écrit, de sans cesse tourner ses pages, comme on égrène un chapelet. Comme exemple de l'absurde, Luther cite alors cette secte des Messaliens qui, au IVe siècle, entendait prier nuit et jour sans arrêt jusqu'à la folie. Ce qui importe pour Luther, et il le souligne tout particulièrement, car avec la répétition du Notre Père, le risque de dérive est grand, c'est que la prière soit vécue comme une élévation des sentiments ou du cœur vers Dieu. Il n'y va pas par quatre chemins quand il insiste encore en disant « Chant, discours, jeu d'orgue, quand l'élévation du cœur n'y est pas, sont une prière au même titre que les larves dans les jardins sont des êtres humains. L'essence n'y est pas, seuls y sont au contraire l'apparence et le nom. » Ce qui est frappant à la lecture de ce commentaire, et j'aurais pu encore citer de nombreux passages, tant Luther insiste sur cet élément, c'est ce dilemme finalement qu'a Luther, de tout à la fois encourager à prier beaucoup, à répéter le Notre Père comme un chemin d'élévation vers Dieu, tout en critiquant avec la plus grande virulence la pratique qui visait à dire ses prières de manière répétée et machinale. On voit que le chemin de crête est étroit pour Luther. Pour Luther, il s'agit de se démarquer de la religiosité de son temps tout en encourageant une spiritualité profonde, une élévation du cœur qui précisément peut s'appuyer sur la prière même du Seigneur et la répétition de cette prière. Le chemin, comme je le dis, pour Luther est étroit, mais le défi est de taille. Et on peut mesurer à la lecture de son commentaire combien le contexte et le débat théologique de son époque l'ont influencé. Aujourd'hui, notre contexte n'est plus le même. Le front n'est certainement plus celui de critiquer une prière mécanique. Quoique, ce n'est jamais, la partie n'est jamais gagnée. Le défi me semble bien celui de redonner du goût à la prière, de redonner de la place dans notre vie, souvent occupée et bruyante, à la prière. Et notre Église, du reste, a inscrit comme priorité des priorités de sa mission de redonner la place centrale à la prière. Il y aurait beaucoup à dire sur cette intention, tant la prière peut être diverse et variée. Mais je crois que l'intention de notre Église, en replaçant la prière au centre de notre spiritualité, c'est précisément de s'inscrire à la suite de Luther en comprenant la prière non pas tant d'abord comme une demande, mais comme une écoute, comme la chance qui nous est donnée en nous inscrivant dans les paroles mêmes du Christ d'être en communion les uns avec les autres et en communion avec Dieu. Aujourd'hui, quand est-ce que nous prions encore? Notre tradition protestante s'est beaucoup reposée sur la prière en famille, la prière avant le repas, la prière des parents au pied du lit de leurs enfants, la prière matinale. Et je le dis d'abord pour moi, nous avons beaucoup perdu de cette pratique, de cette habitude, de se dire que toute notre vie, finalement, peut et doit être placée sous ce regard aimant de Dieu. Comment, aujourd'hui, dans notre contexte, qui n'est certes plus le même que Luther, mais comment, dans notre contexte, aujourd'hui, redonner une place centrale dans ce que nous faisons à la prière, pour que dans tout ce que nous faisions, nous laissions la chance, finalement, à Dieu de nous conduire, que nous ayons la chance de pouvoir entendre ce qu'il a à nous dire. Dans le fond, Luther nous invite ce matin à redécouvrir au quotidien la force de la prière, mais non pas la prière annonée, la prière mécanique ou machinale, mais la prière qui vient du plus profond de notre cœur. La prière, non pas d'abord comme obligation ou répétition, mais comme élévation du cœur dans ce face-à-face avec Dieu, non pour lui demander quoi que ce soit, mais parce que nous avons la confiance d'avoir déjà tout reçu. Amen.
Je vous propose de vous associer de cœur à cette confession de la foi chrétienne. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain « Où es-tu ?» Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l'humain « Pourquoi as-tu fait cela ?» Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans le désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui a parlé en Jésus-Christ. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus-Christ. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui s'est fait sauveur en Jésus-Christ. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité des morts. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit, auprès des hommes et des femmes, de toutes les langues, de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une église invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de chacun et de chacune d'entre nous et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Amen.
Prions encore le Seigneur pour élargir notre prière aux dimensions du monde. Seigneur, par cette prière du Notre Père, tu nous as redit combien nous étions enfants d'un même Père, frères et sœurs en humanité. Alors aujourd'hui, nous aimerions te prier pour toutes ceux et celles que nous ne connaissons pas, mais que tu connais. Nous te prions pour toutes ces communautés sœurs aux quatre coins du monde, et en particulier pour celles qui doivent affronter une situation de violence, d'oppression ou de misère, de guerre. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons, que nous accompagnons et que nous savons en difficulté dans leur être profond, leur santé, leur travail, leur famille. Puisse ta paix leur être donnée, Seigneur. Nous te prions pour notre communauté, ce matin rassemblée, unie et diverse. Chacun est venu ce matin devant toi tel qu'il est, avec cette confiance de se savoir accueilli comme on est. Alors, Seigneur, toi, mieux que nous-mêmes, sais quels sont nos besoins. Alors nous nous remettons simplement, humblement, devant toi. Nous déposons notre vie devant toi, Seigneur, pour que tu la bénisses. Et Seigneur, toutes nos prières, nous voulons les réunir dans celles que ton Fils nous a enseignées et que nous voulons te dire ce matin du plus profond de notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Nous allons bientôt arriver au terme de notre célébration et quelques annonces pour vous. D'abord, pour vous dire que nous aurons l'occasion à la chapelle des Maccabées dans un instant de prolonger ce culte par un temps d'après-culte. Alors nous vous encourageons vraiment à faire ce crochet-là, à vous arrêter un instant. Ce sera l'occasion pour nous, si vous le souhaitez, que nous reprenions quelques éléments de cette prédication, comme nous le faisons chaque premier dimanche de mois. Ce sera aussi l'occasion pour vous de faire plus ample connaissance avec Sandrine Landau, notre nouvelle pasteur stagiaire. Mais je vous encourage en tout cas à vous rester pour vous inciter, vous dire à quel point on est. Pour vous inciter à vous arrêter par la chapelle des Maccabées, nous vous ferons sortir par la porte de gauche. Comme ça, vous serez attirés par toutes les bonnes choses qu'on vous a préparées pour l'après-culte. Alors voilà, c'est une invitation à rester pour l'après-culte. Ensuite, de quoi la journée n'est pas terminée, puisque ceci est notre service du matin. Il y aura aussi un culte ce soir à 18h qui sera présidé par mes collègues Roland Benz et Laurence Mottier. Et nous aurons le grand plaisir d'accueillir la maîtrise du Conservatoire populaire, toujours des chorales absolument magnifiques et pleines de jeunesse et de vitalité. Alors, ce soir à 18h, un bel office. Et puis, dimanche prochain, nous poursuivons donc notre série de prédications. Ce seront mes collègues Emmanuel Roland et Anke Lotz qui nous conduiront dans la méditation de « Que ton nom soit sanctifié ». Sinon, d'autres nouvelles de la vie communautaire, notamment mardi, on continue la lecture du récit de la Passion pour ceux qui aiment lire la Bible matin entre 8 et 9 avant de filer au travail si vous avez la possibilité, mardi à la maison de paroisse. Maintenant, c'est le temps de l'offrande pour la vie de notre communauté que je vous encourage à honorer chaleureusement. C'est pendant que l'offrande est recueillie, nous chantons le cantique 340. D'après Martin Luther, toujours.
Que notre Dieu est
Seigneur, notre prière avant d'être demande veut être reconnaissance, reconnaissance que nous avons tout reçu de toi, que nous voulons être fidèlement et servilement à ton écoute. Alors Seigneur, cette offrande, elle est un modeste signe de cette compréhension que nous avons, oui, que ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi, et que notre vie est une incitation au partage, partage de ta parole, partage de ton pardon, partage de ton amour. Alors Seigneur, nous voilà aujourd'hui envoyés sur les routes de la ville et de la vie. Nous voulons être tes ambassadeurs, Seigneur. Accompagne-nous, soutiens-nous, fortifie-nous. Et pour cela, nous voulons nous mettre à ton écoute. Nous voulons nous placer sous la conduite de ton Saint-Esprit. Alors oui, Seigneur, qu'au quotidien, nous puissions vivre du souffle de ton esprit, que nous puissions en prière nous placer sous ta garde. Alors Seigneur, pour cela nous avons besoin de toi, nous avons besoin au quotidien de ta bénédiction, celle que tu nous offres maintenant. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen.